franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Le trouble était total dans le milieu de l'apiculture française depuis vendredi, la révélation par nos confrères de RMC d'un document de travail du nouveau gouvernement qui envisageait entre autres d'autoriser à nouveau l'usage des néonicotinoïdes, une gamme de pesticides destructeurs pour les ruches et la biodiversité, ainsi que l'épandage aérien, de mesures interdites par la loi de biodiversité. Matignon vient donc de trancher, l'interdiction est maintenue. On fait le point sur la santé des abeilles en France avec vous par téléphone. Henri Clément, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes apiculteur dans les Cévennes, porte-parole de l'Union nationale des apiculteurs de France. Et puis en studio avec nous, Hervé Kempf, comme tous les lundis, avec le magazine reporter.net, notre partenaire. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Hervé, cette information donc qui a fait le tour des médias depuis vendredi, c'était un couac du gouvernement, puisque Matignon vient de trancher.
Oui, tout à fait. Rappelons rapidement les épisodes. Nos confrères de RMC publient un document de travail du ministère de l'Agriculture envisageant l'autorisation à nouveau partielle des néonicotinoïdes, ce que confirme plus ou moins le nouveau ministre de l'Agriculture, M. Stéphane Travert, ce matin. Levée de boucliers très rapide des écologistes, par exemple avec Génération Future et François Veillerette que nous avions la semaine dernière à ce micro, et puis aussi des politiques, les écologistes, le parti de gauche, Delphine Matteau. Donc au final, en fin de matinée, Matignon publie un communiqué. On ne reviendra pas sur les dispositions de la loi de 2016. En effet, la loi sur la biodiversité adoptée en 2016 prévoyait l'interdiction des néonicotinoïdes, avec quelques dérogations jusqu'en 2020. Donc, coup d'alerte, retour en arrière heureux, mais la partie n'est cependant pas gagné pour les abeilles, d'abord parce que le moratoire européen lui-même est très incomplet, d'autre part il y a quelques dérogations possibles jusqu'en 2020, et puis c'est dans un contexte, et Henri Clément va l'expliquer très bien, où les abeilles vont très mal dans le monde, c'est quasiment des espèces en voie de disparition, il y en a environ 2000, des abeilles domestiques et des abeilles sauvages, et en 2016, en France, on a connu une année exceptionnelle par sa faible production de miel, les abeilles vont mal.
Alors, Henri Clément, pour rester un petit peu sur ce qui s'est passé depuis vendredi, est-ce que vous avez eu vous-même des explications, des contacts avec le gouvernement au sujet de ce couac ?
C'est-à-dire que nous, on a été très surpris par le couac parce que jeudi, nous étions en rendez-vous au cabinet de Nicolas Hulot et on leur a posé la question sur la suite de la loi biodiversité. Ils nous ont confirmé que le gouvernement français serait sur une position très ferme sur les néonicotinoïdes. Et donc, quand on a su ce qui se tramait, on a été quand même très inquiet. Mais on a vu assez rapidement, effectivement, comme disait Hervé Kempf, qui ça a été un couac. Mais c'est pas très étonnant. Hein. C'est le lobby des firmes et des agriculteurs, je dirais, productivistes, pas tous heureusement, mais des agriculteurs productivistes, qui est monté au créneau pour essayer de revenir sur ces lois sur lesquelles ils sont pas d'accord, quoi.
Alors, l'un des arguments avancés dans le document, c'était de suivre la législation européenne. Quelle est-elle au sujet des néonicotinoïdes aujourd'hui ?
Là, c'était totalement faux parce que le gouvernement avait dit qu'il ne fallait pas indiquer que c'était l'Europe qui était responsable de tous nos maux. Et heureusement qu'on a la directive européenne. Et donc, ce n'était pas en opposition la réglementation française avec la réglementation européenne. Ça, c'était un prétexte pour revenir en arrière. Et donc, on peut maintenant espérer que la Commission va adopter une nouvelle disposition concernant les néonicotinoïdes. Je sais qu'une des propositions, c'est qu'on interdise les néonicotinoïdes sur l'ensemble des applications uniquement autorisées par dérogation dans les serres. Ça, ce serait un progrès, parce qu'on voit bien que depuis 20 ans, dans cette famille de pesticides est extrêmement dangereuse pour les abeilles, extrêmement toxique pour les abeilles, et également pour la biodiversité, les insectes, l'eau, les organismes du sol. C'est une véritable plaie pour notre environnement.
Mais quelle est la situation concrètement des abeilles domestiques en France en 2017 ? Est-ce que vous voyez une amélioration ?
Non, on ne voit pas d'amélioration parce qu'en plus, ce qui est paradoxal, c'est que depuis 2014, que le moratoire par la Commission de Bruxelles a été pris concernant 4 néonicotinoïdes sur des plantes visitées par les abeilles, on aurait pu s'attendre à une baisse de l'utilisation des néonicotinoïdes et on a eu toutes les peines du monde à avoir les chiffres du ministère de l'Agriculture et en réalité, malgré le moratoire, l'utilisation des néonicotinoïdes a continué à augmenter sur notre territoire.
Hervé Kempf.
Il y a d'autres menaces sur les abeilles que les néonicotinoïdes, ces pesticides. Est-ce que, par exemple, la canicule et le changement climatique sont aussi des facteurs qui affaiblissent ces populations?
C'est pour vous, Henri Clément, la question.
Ah, d'accord. Je croyais qu'elle s'adressait à Hervé Kempf, c'est pour ça.
Non, parce que c'est lui qui l'a posé.
Effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, dans les causes des surmortalités d'abeilles, puisque je vous rappelle qu'on est passé de 5% à 30% en moyenne par an en France, aux États-Unis c'est 50%, 51%, donc ce sont des chiffres qui sont extrêmement alarmants. Parmi les causes, donc, il y a effectivement les pesticides et pas que les néonicotinoïdes, il y a l'évolution de l'agriculture qui est défavorable aux abeilles et aux pollinisateurs dans leur ensemble, avec la monoculture, avec la suppression des haies, avec la disparition de la grande diversité culturelle qu'on avait par le passé, le sainfoin, le trèfle, la luzerne, les féveroles, etc., les prairies naturel, mais il y a aussi des prédateurs comme le varroa ou comme le frelon asiatique, mais au-delà, effectivement, il y a le problème du bouleversement climatique et des effets du bouleversement climatique. Et c'est vrai que l'abeille est une formidable sentinelle de l'environnement, c'est un de notre programme, mais c'est l'apiculteur aussi est une sentinelle. Et nous, sur le terrain, depuis 2003-2004, effectivement, on ressent les effets de ce bouleversement climatique sur les colonies d'abeilles et sur les productions de miel.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez au quotidien ?
C'est-à-dire qu'en fait, les saisons ont été chamboulées. On voit des sorties d'hiver qui sont très précoces, très douces. Et donc, les colonies d'abeilles démarrent prématurément. Donc, la colonie se redéveloppe. Et puis, comme on l'a vu encore cette année, au mois d'avril, mai, on a des périodes de gelée, on a des périodes de mauvais temps. Et donc, les fleurs sont gelées. Nous, même dans les Cévennes, on a eu des châtaigniers qui étaient gelés cette année. Et donc, les abeilles souffrent durant cette période, puisque ce n'est pas un développement naturel et équilibré. Et ensuite, on a, comme on le voit, hélas, encore cette année, des canicules, c'est-à-dire qu'on a des températures très fortes qui brûlent les fleurs et donc les empêchent de produire du nectar qui soit butinable par les abeilles. Et à cela s'ajoutent aussi des longues périodes de vent du nord qui, elles aussi, assèchent les fleurs. Tout cela fait que ces bouleversements climatiques ont un effet sur la production de miel, au-delà des raisons structurelles de la difficulté de l'apiculture française, s'ajoutent ces bouleversements climatiques. Et comme l'a dit Hervé Kempf, l'année 2016 a été la pire, puisqu'on a produit moins de 10 000 tonnes. Il y a 20 ans, on en produisait 32-33 000 tonnes. Et par ailleurs, cela peut aussi avoir une incidence sur la vitalité des colonies. Moi, je me rappelle, en 2004, dans les Cévennes, on a eu une période de vent du Nord qui a duré 2 mois. Et donc, on n'a pas fait de miel. Mais non seulement on n'a pas fait de miel, mais comme les abeilles ne trouvaient plus de pollen et de nectar, la reine avait stoppé sa ponte. Il n'y avait plus ce phénomène de renouvellement régulier des générations d'abeilles. Vous savez que dans une ruche, les abeilles se renouvellent très régulièrement et très rapidement. Mmh. Et donc, il y avait un vieillissement prématuré des populations. Et cela s'est terminé par des disparitions de colonies à des saisons qu'on ne voyait pas, c'est-à-dire en septembre, octobre, novembre, parce que le renouvellement des populations n'était pas là.
Henri Clément, est-ce qu'à moyen terme, vous pensez qu'on va être obligé en France, par exemple, d'engager des humains pour la pollinisation, pour faire ce travail que, pour l'instant, font les abeilles ?
Oh ben je ne l'espère pas, parce que si on en arrive là, non mais attendez, si on en arrive là, c'est déjà le cas en Chine, vous avez
oui, absolument,
sur le National Geographic, vos auditeurs peuvent le voir, c'est très très bien fait, ça dure 3 minutes, ça s'appelle le silence des abeilles, et on voit effectivement dans la province du Sichuan, les enfants, parce qu'ils sont beaucoup plus légers que les adultes, qui vont polliniser fleur après fleur, les fleurs de poirier. Mmh. Bon, écoutez, on sait aujourd'hui qu'il y a des études pour remplacer les abeilles par des micro-drones, mais je ne vois pas comment ces micro-drones, éventuellement, ils pourraient sur les vergers, mais la biodiversité sauvage, ça n'est absolument pas envisageable. Et quelque part, ce serait une démission de l'être humain par rapport à son environnement qui serait redoutable, vous vous rendez compte ?
Alors, on s'en rend bien compte, mais par rapport à la situation, on peut tout à fait imaginer ce scénario, hein, les populations d'abeilles chuter à ce point ?
Ben, vous savez, il y a une étude allemande qui vient de sortir sur la biomasse des insectes, et ils se sont rendus compte qu'à quelques années, 80% de la biomasse des insectes a disparu en Allemagne. Mmh. Donc c'est quand même extrêmement préoccupant.
Absolument.
Et c'est pour cela que, compte tenu de la prise de conscience de nos concitoyens, on l'a vu encore ces derniers jours dans le cadre de nos apides, des élus de terrain et de l'ensemble de la population, il faut espérer que le gouvernement et le courage de prendre les mesures qui s'imposent pour sauvegarder les abeilles. Parce que les abeilles, vous l'avez tous bien compris, ce n'est pas simplement le miel, le pollen ou la propolis, mais c'est la pollinisation, c'est notre alimentation. Et l'abeille pose des questions essentielles. Quel environnement, quelle agriculture, quelle alimentation, quel lien entre l'homme et la nature?
Une toute petite question pour terminer. Est-ce que tout ce qu'on dit depuis le début de cette interview est valable pour les abeilles sauvages?
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait... On a des gens, vous savez, qui essaient de défendre les pesticides en disant « mais c'est pas la faute des pesticides, c'est la faute des apiculteurs, c'est la faute du varroa ». Et on s'aperçoit bien qu'il y a un déclin des populations de pollinisateurs qui est dramatique et qui est même pire que celle des apiculteurs. Et donc, ce n'est là, dans ces cas-là, ce n'est ni la faute des apiculteurs ni du varroa. Et puis je dirais même...
Très vite, Henri Clément, ouais.
Très vite, si les apiculteurs ne renouvelaient pas leurs ruches, ne reconstituaient pas leur cheptel, eh bien aujourd'hui, on serait déjà en pénurie d'abeilles sur le territoire national et dans les autres pays du monde où il y a cette agriculture intensive.
Merci à vous. Vous êtes le porte-parole de l'Union nationale des apiculteurs de France. Hervé Kempf, sujet à retrouver demain sur reporter.net. Et donc, Matignon, qui vient de trancher.
Et donc, les néonicotinoïdes restent interdit en France, selon les termes de la loi de 2016.
Merci beaucoup, Axel. À demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, apporter du savon aux populations en détresse sanitaire. Une étude menée par l'UNICEF dans 51 pays en voie de développement ou peu développés montre que l'accès à l'hygiène et à l'eau est encore très compliqué pour les populations. En Éthiopie, seul 0,1% de la population possède du savon à la maison. 21% au Sénégal, 37% au Swaziland. L'eau n'est donc pas toujours le seul élément manquant pour une hygiène de base. L'UNICEF estime qu'un lavage de mains quotidien pourrait permettre d'éviter la mort de 6 millions de personnes par an, dont 2 millions d'enfants. Les poissons s'éloignent des tropiques au rythme de 50 km tous les 10 ans. Cette conséquence du réchauffement climatique est maintenant estimée par les experts de la biodiversité et de la pêche, une migration qui s'effectue pour presque toutes les espèces marines de l'équateur vers les pôles et qui complique les bilans de pêche et le calcul de quotas, car la mesure d'une espèce dans une zone donnée en particulier doit prendre en compte à la fois l'impact de la pêche et les migrations. Les experts interrogés par le journal The Guardian se disent de plus en plus soucieux du devenir de certaines espèces en particulier qui sont déjà en danger dans leur zone d'habitat et qui pourraient migrer vers des zones fortement pêchées. Et puis effacer la mémoire des escargots de mer pour soigner les humains. Un groupe de chercheurs new-yorkais vient de démontrer qu'il était possible d'effacer certains souvenirs associés à des symptômes post-traumatiques sans causer de dommages aux neurones. Ce travail réalisé sur des neurones d'escargots de mer est une première. Les chercheurs ont réussi à l'aide d'un médicament à détruire une partie seulement d'un souvenir associé à un stress sans effacer pour autant l'ensemble de la connexion synaptique, c'est-à-dire la mémoire elle-même. Un espoir très expérimental de traitement des phobies ou de l'anxiété liées à des événements passés et traumatisants.